11h28, je me suis surpris à faire mes lectures. Je pense que c'est mercredi matin quand je me suis levé et de tomber sur un article qui a attiré mon attention. Souvent, quand on parle du troisième lien, je suis souvent très alerte là-dessus, le tramway. Là, maintenant, on parle régulièrement du pont de l'île d'Orléans. Et voilà, il y avait un texte d'opinion de Jean Baillargeon que je lis régulièrement, qui est analyste et expert conseil en communication stratégique. Et le texte s'intitule « Nouveau pont de l'île d'Orléans, la clé du troisième lien ». Je me suis dit « Monsieur Baillargeon pense comme moi. » Et où c'est un auditeur? Puis il a répété ce qu'il a entendu à radio. Normand Baillargeon est avec nous. Monsieur Baillargeon, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être là.
Merci.
Vous avez eu une longue carrière.
Oui.
Des décennies. Vous avez travaillé avec plusieurs politiciens. Oui. Puis, on va peut-être faire d'autres émissions pour parler de c'était comment cette relation-là avec les divers politiciens que vous avez côtoyés dans votre carrière. Vous garderez les secrets, bien entendu, mais pour le reste, ce serait super intéressant pour l'auditoire de savoir comment était René Lévesque quand il travaillait. Comment était... Vous avez travaillé pour le PQ aussi pendant quelques années.
Jacques Parizeau, Camille Lorrain.
Oui, c'est ça. Camille Lorrain. Je pensais que vous alliez me sortir Camille Sanson. Moi, je regarde je regarde encore des images sur YouTube qui sont disponibles des prestations de Camille Sanson. C'est incroyable à quel point les gens, les politiciens étaient émotifs puis ils se permettaient d'être émotifs à ce temps-là, dans ce temps-là.
Il a même perdu ses dents, là.
En parlant. Ben oui. Je pense qu'il y a une capsule sur YouTube qui dit « Si ça continue comme ça, on va être sa dette là, jusqu'à la fin de nos jours. » Il avait raison. Là. C'était les années 70 que ça avait été prononcé.
Il disait même de sortir le chèque des écoles.
Le chèque des écoles!
Le chèque!
Ça, faut pas trop, par contre, parce qu'il y en a qui sont dépourvus par la suite quand ça va sur Internet. Là.
Voilà. Donc, le texte que vous avez écrit dans le Journal de Québec, « Nouveau pont de l'île d'Orléans, la clé du troisième lien », pourquoi vous en êtes venu à cette conclusion-là, que c'était la clé du troisième lien, le fameux pont?
Le problème, là, actuellement, la discussion porte strictement sur le coût, OK? 2,7 milliards, là, comme vous le savez, c'est 1,8 milliards pour le construire puis 850 millions pour détruire celui qui est là. Là, les gens focusent là-dessus, ils disent « Il y a rien que 7 000 habitants sur l'île, ça coûte trop cher, bon, blablabla. Bla, » bla. Mais dans le fond, là, c'est pas cher si on se sert de ce pont-là pour faire un lien avec la rive sud de Québec, vers Beaumont, qui pourrait connecter avec l'île d'Orléans pour faire ce que moi j'appelle une voie de contournement.
Voies de contournement, il y en a partout dans le monde, sauf à Québec. Là.
Exact.
T'sais, si jamais il y a une problématique sur Henri IV ou sur le pont de Québec, Pont-Pierre-Laporte, les camions, les autos sont capables de passer par l'autre côté, tandis que nous, on ne mérite pas ça à Québec. Québec, c'est pas assez grand.
Bien, vous voyez, tout le monde a peur d'avoir peur. Je me souviens, le premier ministre a dit un moment donné, il avait pensé à ça, il dit « Ah, oh, il faudrait enterrer les lignes électriques. » Vous le savez, il y a une ligne électrique qui passe sur l'île de 750 mégawatts. Puis il dit « faudrait Ah, oh, ça coûterait peut-être trop cher parce qu'il y a l'aspect patrimonial ou rustique là, qui enrobe l'île d'Orléans. C'est comme un tabou, il ne faut pas... Faut pas amener trop de routes sur l'île. Alors que c'est le contraire. L'île d'Orléans, justement, pourrait être davantage visitée. Son développement économique pourrait prendre un essor plus grand si les gens pourraient, de la rive sud, connecter avec l'île d'Orléans.
Y avoir accès plus facilement. Non, là-dessus, vous avez entièrement raison. Je pense qu'il n'y a personne qui s'estime sur le fait que les gens de l'île d'Orléans ont besoin d'un lien fiable. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais le prix est exorbitant, puis je suis d'accord. T'sais, tant que ça nous coûte 2,7, puis on a un petit bout de fête, on peut-tu mettre un peu plus d'argent puis qu'on fasse l'autre bout aussi? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si compliqué pour nous autres à Québec d'avoir un système routier qui fonctionne bien, avoir une fameuse voie de contournement? Je regarde Montréal, il n'y a jamais personne de Québec qui dit « Ben là, Montréal, il y a déjà assez d'accès là, sur l'île, il faudrait qu'on... » Non, il faudrait arrêter, même s'il y en a un qui commence à être magané, ouais, c'est assez. 11, c'est assez, là.
Bien, vous voyez le pont Champlain, là, quand qui était l'équivalent du pont de l'île d'Orléans, on a dit, bien là, parce qu'on mettait de l'argent tout le temps là, pour le rendre sécuritaire, le pont Champlain. D'ailleurs, l'île d'Orléans, là, on a mis 30 millions depuis 2008, je crois, pour le solidifier. Donc, ça coûte de l'argent de toute façon maintenir un vieux pont. Donc là, ils ont dit, le pont Champlain, là, ça, c'est fini. Puis ils l'ont fait en 2 ans, je pense, ça a coûté 4,4 milliards. Donc, à partir de ce moment-là, L'urgence fait qu'on n'a pas le choix, il faut le faire, le pont de l'île d'Orléans. Mmh. Puis là, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle.
Oui.
Qu'il y avait déjà eu des annonces, ça s'en vient, mais ça se faisait jamais.
Parce que le dernier article qu'on a trouvé avec Pascal, c'est Sam Hamad 2010-2011 dans ce secteur-là.
Exact, c'est ça. Donc, ça a déjà été annoncé. Donc, ce n'est pas un luxe, au contraire. Puis, il faut qu'il y ait une vision régionale du transport en commun ou du transport tout court. Et c'est ce qui manque, parce que vous savez, il y a toujours une chicane Lévis-Québec. Vous savez, les deux maires, là, OK? Mané, le maire Labeaume avait essayé de faire une voie, un CRB avec Lévis pour aller au centre-ville. Le maire de Lévis a dit non. Mané, bon,
François Bonnardel avait dit, s'il n'y a pas d'interconnexion entre les deux rives, il n'y a pas de projet.
Pas. Exact.
C'est ça. Puis là, l'autre problème, et là, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a sorti hier, la Caisse de dépôt est allée en commission parlementaire. Puis ils ont demandé la question, est-ce que vous êtes pour, est-ce qu'il va y avoir un troisième lien?
C'est pas assuré qu'il y ait un troisième lien. C'est
pas assuré. Puis là, il dit, on surveille l'achalandage. Mais c'est pas une question d'achalandage. Comme vous l'avez dit plus tôt, c'est une question de sécurité.
Ouais.
Ça prend un autre lien au cas où il se passerait des choses qui feraient en sorte que le pont Pierre-Laporte ou le pont de Québec ne serait plus utilisable pour X raisons. Donc, ça prend... Pour des raisons sécuritaires. C'est pas une question d'achalandage,
exact.
Là, nous.
M. Baillargeon, le plan B pour l'île d'Orléans, venant le cas d'une fermeture pour le pont de l'île parce qu'il y a des problématiques, c'est la traverse Québec-Lévis. C'est dans les papiers des services d'urgence. C'est vraiment Québec-Lévis, la traverse qui va aller chercher les résidents de l'île d'Orléans puis les ramener à Québec ou encore à Lévis. Pour ce qui est du pont Pierre-Laporte, le plan B pour le pont Pierre-Laporte, bon, les voitures, ils vont pouvoir passer sur le pont de Québec, mais encore là, il y a une faible capacité là, au niveau des passages des voitures. Ça va faire des bouchons monstres. Mais les camions, le plan B, c'est Trois-Rivières. C'est un détour de 200 km. Puis ça, on dirait qu'il n'y a aucun politicien. En fait, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui passe ici, j'y demande toujours c'est quoi le plan B pour les camions devant dans le cas d'une fermeture pour le pont Pierre-Laporte. Puis Chris, ils ne savent pas. Pardonnez-moi, j'ai sacré un peu, mais ils ne savent pas. Alors qu'ils sont toujours là à se prononcer. Non, non, Québec n'a pas besoin d'un lien supplémentaire. Ça va faire de l'étalement urbain. On n'est pas rendu là. On aimerait mieux que tout le monde rentre dans le transport en commun. La vérité, là, c'est qu'avec le climat qu'on a l'hiver, il n'y aura jamais plus que 7-8% des gens qui vont prendre le transport en commun. On prend le transport en commun quand on n'a pas le choix, quand monétairement c'est un peu plus difficile, ou si on ne veut pas payer de stationnement en ville, ben on se dit, ouais, tant qu'à être employé là, me payer un stationnement 200$ par mois, c'est aussi bête de prendre le transport en commun. Mais c'est ça la réalité. Puis ils investissent tout le temps plus d'argent possible, ils font des déficits à n'en plus finir, puis ils ont l'impression que c'est ça l'avenir, puis ils s'en vont chercher des idées en Europe. Là où le climat est pas le même, puis ils nous disent, regardez, eux autres, ils font ça, on pourrait faire ça ici. Moi, j'arriverais pas en bicycle à pédale à la job, avec le cul ben beurré de boîte, puis à sentir le swing, c'est pas vrai, vous m'aurez jamais. Donc, ce sera pas ça au printemps, ce sera pas... L'été, peut-être, si je suis chanceux, là, je vais prendre l'autobus, mais sinon, honnêtement, je comprends pas pourquoi ils vont chercher des modèles européens pour Québec, là où c'est une ville où il y a énormément de neige, où c'est extrêmement venteux l'hiver. C'est particulier ici. Est-ce que c'était complexe comme ça quand vous étiez en politique, quand vous étiez conseiller? Est-ce que les politiciens étaient visionnaires ou ils pensaient dans le « ici et maintenant » comme Geneviève Guilbeault dit, ben ça va coûter 2,7 le pont de l'île parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça, c'est une vision pour aujourd'hui. Là.
En fait,
mais c'est quoi dans 5 ans? Ça va être quoi dans 10 ans? Ça va être quoi, soit dans 20 ans?
C'est ça. Bien, là, vous m'interpellez pour que dans le passé, là, effectivement, à mon époque, il faut dire que, effectivement, moi, j'ai connu des politiciens visionnaires. Comme vous le savez, le premier mandat du PQ, là, de 76 à 81, il y a eu les plus grandes réformes qui existent encore, là, l'assurance automobile, les clubs de chasse et pêche qui ont été nationalisés,
ouais.
Donc l'accès au territoire. Il y a eu, excusez-moi, là, j'en cherche des réformes. Il y a eu la loi 101, évidemment, sur la langue. Donc, c'est des réformes qui ont demandé beaucoup de courage politique à cette époque-là. Ça changeait les mentalités. Puis là, on
il y avait un risque de ne pas se faire réélire aussi, là.
Oui, il y avait un risque. Ben, d'ailleurs, ils ont perdu le référendum en 80, mais ils ont été réélus parce qu'ils avaient été visionnaires, vous comprenez?
Oui, mais c'est ça qui est intéressant à ce moment-là, politique, là.
Exact.
Ils le faisaient pour faire de la politique.
Exact.
Pas pour se faire réélire et s'assurer un pouvoir.
Exact.
Ce que je déplore un peu, moi, dans la politique moderne.
Il y avait aussi la loi sur la protection des terres agricoles là, qui avait été faite par Jean Garon, d'ailleurs, ici. Donc, tout ça pour vous dire que actuellement, ce qui manque, on ne peut pas avoir de consensus à 100% de toute façon, on oublie ça, là, OK? Parce qu'on parle de projets à long terme. Même le pont de l'île d'Orléans, ça va prendre 10 ans, là. OK? Dans 10 ans, là, c'est le gouvernement actuel sera... Je ne pense pas que ça va être le même gouvernement. Là, ouais. On s'entend là-dessus. Donc, l'idée, c'est avoir une vision puis dire, bien là, on implante quelque chose pour longtemps. OK, on pense aux générations futures. Ça va coûter cher sur le coup, mais pensez, le pont de l'île d'Orléans, le pont actuel, là, ça fait 100 ans qu'il est là. Fait que, et échelonner l'amortissement de l'investissement sur 100 ans, ça revient pas cher. Là. Il faut avoir une vision. Donc, tout ça pour dire que les investissements pour des infrastructures, on en manque, c'est ce que je dis dans l'article. La région de Québec manque d'investissements en infrastructures. Au départ, là, on est déficitaire. Et en plus, on est un point de convergence de plusieurs régions. Là. Vous parliez des camions tout à l'heure. Là. La région du Saguenay, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, les Maritimes... La Beauce, tout ça converge vers Québec.
Ouais, ça
c'est les camions, là. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises de camionnage ici. Donc, déjà, il y a une logique, là, qu'il faudrait, justement, comme vous dites, penser pour le transport en camion, tu sais, où est-ce qu'on peut les faire passer, tu sais, pour éviter, justement, que ça crée de la congestion. Donc, la voie de contournement via l'île d'Orléans, à mon avis, est parfaite pour ça.
Mais on est-tu les enfants pauvres du Québec? À chaque fois qu'on a un projet ici, puis tu sais, moi, le projet de tramway, je trouve qu'il coûte un peu cher. Je suis pour le transport en commun, mais le tramway, ça n'avait pas de bon sens. 12, 13 milliards. Après ça, le maire qui revient en disant, oh, ben, j'ai une solution, là, une solution B, là, à 8, là, on coupe tout ça. Alors que ce projet-là a été maintes fois coupé, puis on était encore autour de 12, 13 milliards. Ça n'avait aucun bon sens. Mais c'est toujours Montréal qui décide de ce qu'on doit avoir ici. Bien. Alors que la majorité des Montréalais, quand ils sont consultés pour Québec, ils s'en sacrent. Oh, ils ont déjà deux liens. Là. Ils ne savent même pas que le pont de Québec est pratiquement en fin de vie. Oui, mais ils ont deux liens. Ils n'ont pas besoin de trois.
Mais quand vous parlez, ça me fait rire, parce que vous parlez du coût du tramway. À Montréal, là, ils ont des projets, là, le prolongement du métro, le REM, etc. Là, okay? On pète le 20 milliards et plus. Là, OK? Puis il n'y a personne qui se pose des questions.
Non.
Okay? Donc, le coût, là, OK, moi, je ne veux pas discuter, ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui sur est-ce qu'on doit avoir ou pas un tramway. C'est sûr qu'on doit avoir un service de transport collectif plus efficace.
Efficace, oui. Okay? On s'entend là-dessus.
Parce que si tu n'es pas efficace, si tu n'es pas rapide, surtout quand il y a du trafic, tu ne battras jamais l'auto. On oublie ça, là, OK? Faut que tu aies des voies dédiées, puis il faut que tu sois rapide et confortable aussi. Bon,
ma mère prenait l'autobus dans les années 80, on est du centre-ville de Québec, elle n'avait pas de char, elle n'a jamais eu de char de sa vie. Elle prenait l'autobus, j'étais tout le temps dans les autobus, mais ils ne finançaient pas nécessairement autant l'autobus, puis c'était toujours 7-8% de la population. Puis là, on continue à mettre des millions et des millions. Là, on est rendu quasiment à penser à mettre des milliards. On est toujours autour de 7-8% de la population. On travaille-tu dans le vide? T'as un moment donné des abris d'autobus à 1,2 million de dollars, M. Baillargeon. Y a-tu quelqu'un qui va arrêter? Y a personne qui a demandé des abris d'autobus à 1,2, 1,3 million de dollars. On met toujours du luxe, du luxe, du luxe. Là, c'est rendu trop compliqué pour les gens qui sont en autobus de regarder où est-ce qu'ils sont rendus sur le chemin. Ça prend la madame qui dit qu'on est rendu à telle place pour qu'on puisse débarquer. On nous dit exactement où est-ce qu'on est rendu. Là, le jeune qui prend l'autobus pour le secondaire se dit « Bon, ben là, mon autobus est rendu où? » Il embarque sur son application, puis il sait que son autobus arrive dans 30 secondes. Ça le rassure. Alors qu'avant, on savait que l'autobus passait à écart, on arrivait à l'arrêt d'autobus à 10. Mais il y a toujours 7 à 8 % de la population, même si on a juste ajouté du luxe, ajouté du luxe, ajouté du luxe.
C'est sûr.
Est-ce que le futur, c'est le transport en commun à Québec? Je ne pense pas. Je pense que le transport en commun doit faire partie d'une solution. Mais est-ce que le futur, c'est ça? visiblement depuis les années 80. J'étais un peu plus jeune que vous. Je sais que ça paraît pas, là, on a à peu près les mêmes cheveux, mais ça a toujours été ça.
Les miens sont gris.
Moi, bon, je me teins, je me teins.
Mais écoutez, moi, je pense que ça n'en prend. Là. Écoutez, de toute façon, à cause qu'il faut voir l'avenir, n'oubliez pas aussi que quand vous restez en banlieue, là, je dis ça comme ça, là, payer deux autos, ça coûte de l'argent. Deux et trois autos, des fois, parce que là, ouais. Quand les jeunes vieillissent... Fait que là, si... Regardez comment ça coûte une automobile aujourd'hui, là. Électrique ou pas, là, peu importe. Là.
Un dans 60, 100 000.
Ça commence à être de l'argent, OK? Fait que pensez à cet aspect-là aussi. Et nous autres, on avait deux autos chez nous. Bien là, évidemment, moi, je reste dans le centre-ville maintenant. On a seulement une. Alors, tu sais, on n'a plus besoin de deux autos. Moi, je fais beaucoup de choses à pied. Je travaille de chez nous. Puis je prends l'autobus, la 800, puis ça passe tout le temps.
Ça va bien.
Ouais. Alors, si je veux aller au centre d'achat, si je veux aller à l'Université Laval, ça va vite. Là. Il en passe aux 5-10 minutes. Là, il y a du bon service pour cette portion-là. Pour ce qui est des banlieues, bien là, c'est une autre affaire. OK? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait faire un autre type de transport en commun ou seulement aux heures de pointe? Peut-être. Qu'il y en ait beaucoup juste aux heures de pointe, là, mettons, pour montrer aux autos qui sont jamais sur l'autoroute, bien, ça va plus vite à ces heures-là. Est-ce que c'est ça? Ça se peut, tu sais, je sais pas.
Ça doit faire partie de la solution, mais ça ne doit pas essayer d'éloigner l'automobile. Les gens qui ont besoin de leur automobile, comme les politiciens qui viennent nous visiter pour nous dire « Toi, Marceau, tu vas devoir être dans l'autobus pendant que moi, j'ai mon chauffeur privé. » Tu sais, ça doit faire partie de la solution et non essayer de nous dire hey, « Vous devez vendre votre deuxième véhicule. » Si les gens ont besoin de deux véhicules, c'est un mode de vie qu'on a. Mais moi, ce que j'aime dans votre texte que vous avez écrit dans le Journal de Québec, c'est vraiment la finalité. Puis s'il y avait plus d'hommes comme vous en politique, M. Baillargeon. On cherche un maire prochainement. Je ne sais pas si...
Non, je ne suis pas disponible.
Je ne sais pas si vous cherchez une job. Et vous dites, agissons maintenant pour l'avenir en pensant aux générations futures de la grande région de Québec qui méritent d'avoir enfin des infrastructures du 21e siècle. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu dire ça d'un politicien. Puis tu sais, ça vient d'un gars qui a travaillé en politique pendant plusieurs années. Vous êtes un expert conseil. J'adore votre façon de voir les choses. Puis je me pose toujours des questions à savoir, quand on se lance en politique, on se lance-tu en politique pour nous autres ou pour essayer d'améliorer le monde qu'on a actuellement, puis essayer d'améliorer le futur de nos enfants? Il manque de gens avec votre vision, puis tu sais, c'est probablement la vision des gens ici à la station. T'sais, on se dit, tant qu'à bâtir quelque chose, on doit se mettre à le bâtir pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais je ne comprends pas comment ça que ça rentre pas dans la tête des gens à l'Assemblée nationale.
C'est une question de leadership, OK? Faut pas se leurrer ici dans la région de Québec. J'ai déjà écrit des textes là-dessus aussi, là. Qui manque un leadership, c'est sûr, OK, dans la région, là, régionale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il va falloir qu'il y ait des gens qui émergent, et peut-être comme vous aussi, comme animateur, vous êtes un leader. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être interpeller les gens qui seraient intéressés à prendre un leadership, justement, pour faire en sorte que la région de Québec... Ça peut être pas toujours en politique. Je pense, exemple, la Chambre de commerce. Là, bon, c'est un milieu aussi là, où il peut émerger des gens d'affaires qui critiquent souvent. Mais à un moment donné, quand tu demandes aux gens d'affaires, veux-tu aller en politique? Il y en a, par exemple, qui disaient hey, Dominic Brown là, il pourrait partir. Mais non, il ne veut pas y aller. Il sait que c'est tough pour la famille. Puis les pressions maintenant des réseaux sociaux, donc la qualité de vie. Donc, c'est pas facile faire de la politique là, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui y pensent, qui réfléchissent, mais ils ont peur de perdre la qualité de vie. Alors, et évidemment, tout ce qui se passe, les menaces sur les réseaux sociaux, là, vous le savez, c'est pas facile. Faut être brave. Moi, j'ai beaucoup de respect au départ envers tous ceux qui se lancent en politique parce que je les trouve courageux, peu importe les partis politiques.
J'ai un commentaire de Sylvain que j'aime beaucoup. Il y en a un autre qui vient de rentrer. Je le lirai peut-être plus tard. Ce que Sylvain pense, puis vous êtes analyste et expert conseil en communication stratégique. Sylvain dit, moi, je me demandais si c'était pas prévu de faire l'annonce d'un pont à l'île d'Orléans pour 2,7 milliards. Puis ça ferait réaliser aux gens que le prix, ça n'a pas de bon sens. Fait que tant qu'à donner un 2,7, pourquoi pas justement donner un petit peu plus puis se rendre de l'autre côté? Pensez-vous que ça pourrait être une stratégie du gouvernement?
Oui, je pense. Ah oui? Honnêtement, moi, je pense que c'est une stratégie un peu machiavélique, mais...
Mais vous pensez que c'en est tout?
Si vous pensez...
Non, ça aurait du bon sens, là.
Mettez-vous dans... mettez-vous... Quand le premier ministre a déjà parlé, OK, Les maires, il y a 6 municipalités, je pense, sur l'île d'Orléans. Les maires de l'île, ils ont dit non, non, ça n'a pas de bon sens, il faut préserver l'île d'Orléans. Là, les maires, ils ont réagi en disant c'est formidable, on a un vrai pont là, de 2,7 milliards. Bien là, les maires seraient mal foutus de dire qu'ils s'opposent à un autre pont pour aller sur l'île parce qu'ils ont leur beau pont. Donc, si vous mettez à la place du gouvernement, en termes stratégiques, vu que je fais de l'analyse stratégique,
oui.
Je trouve ça génial de sortir un pont aussi cher, luxueux, appelons ça comme ça, pour 7000 habitants et 6 maires, OK, qui chialaient avant qu'il ne fallait pas amener trop de monde à l'île d'Orléans via la rive sud. Bien là, est-ce qu'ils sont en position de critiquer un nouveau pont? Moi, je serais mal vu là, de critiquer là, parce qu'on leur dirait, ben oui, mais toi, tu as un pont de 2,7 milliards, là. Faut, compte tenu des taxes que vous payez là, au gouvernement du Québec, là, OK, est-ce que vous avez le poids au niveau des citoyens versus ce que ça coûte? Et est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire votre part pour ouvrir votre île à l'ensemble de la région de Québec, notamment de la Rive-Sud? Moi, je trouve que comme stratégie, là, la balle, comme je l'ai dit, est sur la caisse de dépôt, sa filiale Infra, qui va remettre un rapport au mois de juin. J'espère qu'eux autres vont dire, bien là, ça apprend un lien via l'île d'Orléans. Il y a une autre chose que j'ai parlé dans mon article, vous n'en avez pas fait de mention à date, c'est que, vous le savez, le gouvernement du Québec a acheté une grande partie des terrains de Rabaska qui oui. étaient libres, là, OK, pour qui jouxte justement les terrains de la MILDV, qui ont eu aussi...
Des gros contrats,
là, de 8 milliards, là... pour bâtir 6 ou 7
navires.
Brise-glace, là, ouais. OK, du gouvernement fédéral. Donc, ils ont eu déjà le mandat pour la conception là, de tout ça. Donc, ça, là, c'est une nouvelle, c'est gros, là, OK, comme investissement. Donc, eux, imaginez là, toutes les petites et moyennes entreprises qui pourraient s'installer dans un parc industriel à côté, là, sur les terres de Rabaska, à côté de la MILDV, des fournisseurs, là, parce qu'un bateau, là, c'est toutes sortes de pièces, évidemment. Et évidemment, le transport, on a parlé des camions puis tout ça, là, OK, qui pourraient... Puis aussi, le port de Québec, on ne se le cache pas, ils veulent aussi avoir un accès sur les terrains de Rabaska. Donc, tout ça mis ensemble, moi, je trouve que c'est un pôle de développement merveilleux pour la Rive-Sud de faire aussi un lien avec l'île d'Orléans. De toute façon, là, la hauteur, on m'a déjà parlé, ouais, ça prendrait un pont en hauteur. Il y a déjà des fils électriques, si vous y avez été, qui passent déjà très haut, là, OK? Donc, c'est pas une chose impossible, là.
Non, c'est ça. Puis il y a moyen de faire quelque chose de beau, là. Ce qu'ils nous ont montré comme dessin pour le pont de l'île d'Orléans, ça va être magnifique, là.
Oui.
Mais c'est juste qu'effectivement, comme vous dites, le prix en a fait sourciller plus d'un. Et si c'est vraiment une stratégie manichéenne, c'est ça que vous
oui,
avez dit?
Oui, manichéenne.
Ben, ça répondrait peut-être à une couple de questions.
à suivre au mois de juin.
C'est pour ça que c'est important de parler avec un analyste et un expert conseil en communication stratégique.
Vous m'inviterez au mois de juin là, pour quand la caisse de dépôt déposera son rapport.
Ben oui.
Je pourrais vous le commenter.
C'est un rendez-vous. Ça a été un plaisir. Jean Baillargeon, qui est analyste et expert conseil en communication stratégique, je vous invite à lire son texte dans le Journal de Québec, un texte hyper pertinent. Merci. On revient. Marceau le midi.